Lyon demain, découverte.
Cette semaine, nous allons vivre un moment d'exception, l'un de ces rendez-vous rares où l'univers s'invite directement au-dessus de nos têtes et dans nos yeux. Ce 12 août, c'est donc mercredi, la Lune va glisser exactement entre la Terre et le Soleil pour nous offrir une magnifique éclipse solaire. Et pour comprendre la magie, mais aussi la science derrière cet alignement céleste hors du commun, nous recevons un passionné, François Haru. François, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiateur scientifique depuis plus de 30 ans, créateur du projet MHD Productions. Vous êtes aussi le producteur des émissions et podcasts Vision Nocturne et Skyline sur Lyon Demain. Avant de plonger dans les détails techniques de cette éclipse, dites-nous, que ressent un astronome et vulgarisateur chevronné comme vous lorsque le soleil commence à s'effacer en plein jour?
C'est quelque chose de génial, bien sûr. J'ai eu l'occasion de vivre ça en 1999, le 11 août à l'époque, lors de l'éclipse totale qui passait par on va dire le nord de la France, hein, du côté de Strasbourg. J'y étais. Malheureusement, un gros bloc de nuages est venu s'interposer entre l'éclipse et nous, mais j'ai quand même pu voir le ciel d'hiver à midi, au mois d'août.
Pour celles et ceux qui nous écoutent avec leurs lunettes de protection prêtes à être déballées, on parlera de la protection ensuite, hein, de la protection des yeux, évidemment. Rappelez-nous, qu'est-ce qui se passe exactement sur le plan astronomique en ce 12 août? Car la Lune, on le sait, est plus petite que le Soleil. Comment la Lune parvient à fermer le Soleil?
Vous savez que vous pouvez masquer complètement la Lune avec votre pouce. Il suffit d'étendre le bras, de tendre le pouce en l'air, comme si on voulait liker, et de l'interposer entre la Lune et nous. Et vous remarquez bien que votre pouce, qui est beaucoup plus petit que la Lune, va masquer l'intégralité du disque, on va dire, lunaire. Eh bien, c'est ce qui se passe, mais en plus grand. La Lune passe devant le Soleil alors qu'elle est beaucoup plus proche. Grosso modo, la Lune est 400 fois plus proche par rapport au Soleil, mais elle est 400 fois plus petite. Ça tombe bien. Son disque, lorsqu'elle est positionnée correctement, masque l'intégralité du Soleil. Bien sûr, ce n'est pas ce qui va se passer en France, puisque ce sera au nord de Barcelone que la bande de totalité de l'éclipse va passer. En France, on n'en verra qu'une partie, ce sera déjà pas mal, puisqu'à Lyon, on aura un peu plus de 93% du soleil qui sera masqué par la Lune. Donc on aura quand même un bel assombrissement du ciel, même si ce sera déjà le soir, puisque le soleil sera à une hauteur de à peu près 4 degrés au-dessus de l'horizon, donc c'est 3 fois rien. D'où l'intérêt d'être vraiment exposé direction ouest, sans immeubles, sans arbres. L'idéal, c'est d'être au bord de la mer, mais bon, à Lyon, c'est un peu plus délicat. À l'heure locale, l'éclipse va commencer à 19h27. C'est ce qu'on appelle le premier contact, c'est-à-dire que lorsque la Lune, entre guillemets, va toucher le Soleil, elle va passer devant le Soleil à 93%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on verra un simple petit croissant de Soleil, en fait. Ce sera assez intéressant, puisque grosso modo, à partir de 20h16 jusqu'à 21h27, vous aurez ce petit croissant, vous allez avoir l'impression qu'il va tourner sur lui-même. On appelle ça les cornes du diable, donc on va voir les cornes du diable tourner. Et ensuite, la Lune commencera de nouveau à s'éloigner du centre du Soleil, et puis jusqu'à disparaître. Mais malheureusement, le soleil sera déjà couché pour la fin de l'éclipse. Donc on verra quand même le maximum de l'éclipse avec ce fameux petit croissant solaire, si je peux dire, à bien sûr entre 4 degrés et 0 degrés, hein, donc ce sera très proche de l'horizon.
Quel ressentiment on a quand on voit une éclipse? Est-ce que c'est uniquement un phénomène visible de visibilité, je dirais de luminosité, ou est-ce qu'il y a autre chose? Vous m'expliquez en off là qu'il y avait des vents qui pouvaient apparaître.
Oui, bon, déjà sur le plan émotionnel, c'est assez fabuleux, parce qu'on se rend compte qu'il se passe pas mal de choses et on prend conscience qu'il y a des astres, entre guillemets, qui tournent autour de nous, bon, même si on sait que c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Mais après, sur le plan physiologique, en effet, on commence à ressentir des écarts de température, un petit vent. Moi, je me souviens, par exemple, pour l'éclipse du 11 août 1999, puisque là, c'était une éclipse totale, il s'était mis à faire nuit, on avait le vent qui s'était levé, tous les oiseaux qui étaient venus se reposer sur les arbres. Ensuite, on a eu la nuit, l'apparition des étoiles. Bon, comme je vous le disais, malheureusement, il y avait eu des nuages. Ce qui est intéressant quand on n'a pas de nuages, c'est qu'une fois que la Lune est devant le Soleil complètement, je parle bien attention d'une éclipse totale cette fois-ci, enfin je veux dire dans la bande de totalité, on peut enlever les lunettes de protection pour regarder en direct la Lune devant le Soleil, et là on aperçoit la couronne solaire. Donc c'est tous ces phénomènes gazeux du Soleil qui sont au-delà de l'atmosphère solaire, on appelle ça la couronne du Soleil. On arrive à voir quelques éruptions, quelques protubérances autour de la Lune, puisqu'elle cache le centre du Soleil. Ça dure pas très longtemps. Et puis, il y a le célèbre, la pierre de diamant. Ça fait un peu comme un diamant qui va s'éclairer d'un coup sur le côté de la Lune. Et là, l'éclipse, la Lune s'éloigne. C'est assez fabuleux. Et une fois que le jour revient, eh bien, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait toutes les vaches. Je me souviens, on était entouré des tables et on avait entendu toutes les vaches dans les les étables qui s'étaient mis à meugler, etc. Et bien sûr, tous les corbeaux, les oiseaux qui s'étaient envolés de nouveau. Donc, c'est intéressant. Je me souviens, il y a de nombreuses années, le fameux commando.
C'est un peu comme si la nuit tombait deux fois, quoi, en fait.
Elle tombe anormalement.
Elle tombe anormalement et elle retombe derrière, quoi.
Voilà, et je me souviens, il y a de nombreuses années, il y a le commandant Cousteau qui avait filmé ce qui se passait sous l'eau lors d'une éclipse. Et on avait les poissons de jour qui croisaient les poissons de nuit. Donc, c'était assez intéressant.
Alors, comme on sera à une éclipse à 93%, on va pas faire des folies, hein, on va pas regarder ça à l'œil nu, évidemment.
Surtout pas.
On fait un point justement sur la sécurité, on le répétera jamais assez. Regarder le soleil en face sans équipement approprié, ça présente de très graves dangers pour la vue. Quelles sont les règles d'or absolues pour en profiter et sans aucun risque?
Alors d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas regarder directement. De ne pas regarder dans un miroir, ça marche pas non plus. Le coup de la bassine d'eau de nos grands-mères, parce qu'on, quand j'étais petit, on me disait, tu prends une bassine d'eau, tu regardes le reflet du soleil dans la bassine d'eau. C'est vrai que c'est moins éblouissant, mais bon, les rayons quand même, il faut pas rêver, ça passe quand même. Le coup du verre à souder, ou alors on prenait aussi des négatifs de photos ou des radiographies, ça marche pas du tout, surtout pas. De noircir du verre avec une bougie, ça marche pas non plus. Je vous donne toutes les astuces, mais elles ne marchent pas. Et ce qui fonctionne, bien sûr, c'est d'une part, c'est de regarder indirectement. Tout simplement, vous prenez un carton, vous percez un petit trou avec une aiguille et vous regardez la lumière du soleil qui passe à travers ce petit trou, qui va se projeter sur une feuille. Donc, vous êtes dos au soleil, vous risquez rien. Vous mettez le carton à côté de vous. Vous avez la lumière qui passe par le petit trou qu'on appelle une sténopée. Et du coup, vous avez
une projection indirecte, en fait.
Voilà, c'est une projection. Et d'ailleurs, amusez-vous à regarder pendant l'éclipse l'ombre des arbres sur le sol. Vous avez une multitude d'éclipses qui vont se projeter sur le sol, puisque toutes les lumières qui passent entre les feuilles des arbres, ça agit comme une sténopée. Et là, vous verrez que par terre, vous aurez des milliers de petites éclipses projetées. C'est assez rigolo. Et sinon, pour la regarder en face, si je peux dire, bien sûr, utilisez les fameuses lunettes que vous trouvez dans le commerce, en pharmacie ou dans les magasins spécialisés.
Et pas toutes, parce qu'on sait que sur Internet, ils se vendent n'importe quoi.
S'il y a écrit ISO, en gros, c'est bien gentil, mais ça suffit pas. Il faut que ce soit à la norme. Si je me rappelle bien, c'est la norme 1-2-3-12-2. Voilà, la norme 1-2-3-12-2, c'est la norme, mais il y a même 2015 derrière d'ailleurs, 1-2-3-12-2, 2015, donc ça c'est la norme à utiliser. Bien sûr, si vous avez des anciennes lunettes, ne vous en servez pas.
Ouais, si vous en avez des lunettes qui datent de 99.
Voilà, ne vous en servez pas parce que...
Même si elles sont en bon état, même si elles sont dégradées.
Le produit chimique dessus, c'est dégradé et tout. De plus, quand vous achetez des lunettes, si elles ne sont pas dans un emballage transparent, vous pouvez les refuser parce qu'elles peuvent avoir été rayées. Et la moindre rayure, les rayons passent à travers. Donc, quand vous achetez des lunettes, même si vous les vendez par boîte de 4 ou de 5 ou de 10, il faut qu'elles soient chacune dans un emballage et vous les déballez uniquement pour observer. Vous vous amusez pas à les déballer avant, vous risquez de les rayer. Et l'astuce, c'est de poser les lunettes sur le visage, de viser le soleil et après d'enlever les lunettes, bien sûr, une fois qu'on ne regarde plus le soleil. Parce que souvent, on a tendance à regarder le soleil et à mettre les lunettes après, c'est trop tard. On a déjà quelques risques de brûlure. Donc, vous mettez bien les lunettes avant d'observer le soleil.
Quand on va au soleil, on utilise des lunettes de soleil, il y a des Ray-Ban. Bon, les Ray-Ban, ça ne marchera pas.
Surtout pas, ça ne marche pas. Non, surtout pas. Et puis, les verres de soudure du plombier du coin, ça ne marche pas non plus. Les masques à souder, etc. Il y aurait un verre qui pourrait fonctionner, c'est le verre au grade 14. Donc, si vous allez dans votre magasin de bricolage préféré, vous achetez un verre à souder au grade 14. Ça coûte quand même beaucoup plus cher que d'acheter des lunettes de l'éclipse. Donc, tant qu'à faire, je pense qu'en ce moment, les pharmacies et les magasins d'optique sont bien fournis. Sinon, si vous retrouvez à n'avoir aucune paire de lunettes, eh bien, regardez soit derrière une lunette astronomique qui est équipée d'un filtre à l'objectif et non à l'oculaire, avec un club d'astronomie ou votre propre télescope si vous avez.
J'allais vous demander, justement, vous qui êtes professionnel, qui êtes médiateur scientifique, comment vous allez l'observer cette éclipse mercredi?
Alors, me concernant, je vais sortir ma petite lunette de 80 mm de diamètre qui est équipée d'un filtre solaire en millar et je vais me fabriquer un héliostat. Donc, c'est un petit instrument qui va me permettre de suivre le mouvement apparent du soleil. Tout simplement, j'aurai une petite lunette qui va me projeter l'image de l'éclipse sur un carton blanc. On appelle ça un héliostat parce qu'il y a un petit miroir qui va suivre en plus le mouvement du soleil. C'est plus confortable, ça évite de se tordre dans tous les sens. Mais en effet, le coup du sténopé là, de percer un petit trou sur une boîte de chaussures, ça marche super bien pour regarder l'éclipse, bien sûr, par projection et non à travers le petit trou.
Alors, sur votre site MHD Productions, là, vous prônez une vulgarisation plutôt moderne et vivante.
Alors, avec MHD Productions, depuis 2022 que l'entreprise existe, en effet, moi, je propose des activités de vulgarisation scientifique. J'interviens dans des festivals. J'interviens régulièrement au festival Mission Possible de Bron. Je vous donne un scoop, j'interviendrai au mois d'octobre au festival Mission 6 Possible de Bron, où on va parler du son dans l'espace. Alors, hein, voilà, ce sera intéressant. Je suis partenaire avec le Planétarium de Vaux-en-Velin pour des expositions et du matériel pédagogique.
Vous organisez aussi des veillées astronomiques.
Exactement. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'animer la veillée On the Moon Again au mois de juin. On avait fait ça à l'aéroport de Bron. On a eu une centaine de personnes. On était tranquille à côté du fameux restaurant, du grand restaurant qui est l'aéroport de Bron. J'avais mon télescope de 300 mm et on a observé la Lune. Donc c'était sympa, c'était intéressant.
Et comment les technologies, justement, ces nouvelles technologies, ces télescopes connectés, comment ça révolutionne un événement comme l'éclipse
nécessaire ? Voilà, alors pour l'éclipse, en dehors peut-être des petites lunettes, des petits télescopes Dwarf Lab des pays de l'Est, là, les petits télescopes 2.0, on pourra filmer l'éclipse avec puisqu'ils sont dotés de filtres. Mais après, tous les télescopes connectés, style Unistellar, Eviscope et compagnie, eux ne sont pas équipés de filtres, donc ils ne sont pas prévus pour ce genre d'observation. Mais d'une façon générale, c'est vrai que ces télescopes connectés, c'est assez génial parce que le télescope, il a son propre GPS, il se connecte avec votre smartphone et en gros, il vous propose un catalogue de ce que vous pouvez voir en ce moment et donc il vous prend même en photo des nébuleuses, des galaxies. Donc c'est super intéressant pour découvrir l'astronomie, mais ça n'empêche pas de quand même pouvoir mettre l'œil à l'oculaire d'un télescope. Moi, je me souviens toujours de l'émerveillement du public lorsque je sors mon télescope et qu'on regarde la Lune à l'oculaire, qu'on voit les cratères. C'est toujours assez spectaculaire de mettre l'œil derrière le télescope, ne pas oublier.
Votre parcours montre une vraie passion pour l'espace. Vous avez conçu des ateliers pédagogiques, justement en travaillant avec des institutions. Comment passe-t-on de la contemplation du ciel, ce qui a été votre cas au départ, à la médiation ?
Ce qui est intéressant, c'est que me concernant, en fait, j'ai toujours commencé par de la médiation. Parce que la première fois que j'ai regardé dans une paire de jumelles, je devais avoir, je ne sais plus, 8 ou 9 ans. J'ai regardé une paire de jumelles, je me souviens, j'étais à Valence chez de la famille. Mon oncle avait une paire de jumelles et on s'amusait, alors quand on est gamin, on s'amusait à regarder les appartements d'en face. Et puis je lève les jumelles vers la Lune. Et là, j'ai eu un effet. Ne pas oublier quand même que juste avant, quand j'avais 6 ans, mes parents m'avaient réveillé pour regarder l'alunissage, le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune. Donc ça, je l'ai vu en direct. Où j'avais d'un côté ma grand-mère qui disait en italien, ça va être la fin du monde. Et de l'autre côté, mon père qui disait, moi, je suis sûr que c'est du cinéma.
Alors dans vos ateliers, les jeunes et le grand public peuvent participer. Il y a des ateliers pour tous les âges, je veux dire.
Voilà, alors chaque fois que je participe à des ateliers, alors ça peut être avec mes amis du Planétarium de Vaux-en-Velin ou ailleurs. Bon, je parlais du festival de Bron en novembre. Bon, là, il se trouve que j'ai participé au festival Astro de Valberg au-dessus de Nice, où on a eu plus de 2000 personnes. Donc, un grand festival dans une station à 1700 mètres d'altitude.
Et quand vous dites atelier, c'est-à-dire que les gens qui sont autour de vous ne sont pas seulement spectateurs à vous regarder
Voilà, alors il y a deux types d'ateliers. Il y a les veillées astro. Les veillées astro, bien sûr, on est plusieurs à avoir des télescopes et en gros, le public qui vient se promener, ben, on leur donne des cartes du ciel, on leur fait utiliser Stellarium ou autre sur le smartphone. Et bien sûr, on observe à travers différents télescopes de différentes tailles, de différentes capacités. Et puis, il y a d'autres types d'ateliers qui sont soit des interventions en milieu scolaire ou avec du grand public, comme par exemple des fusées à eau. C'est un peu ce qu'on a eu à Vaux-en-Velin avec les festiciels. Ça, c'était au mois de juillet. Avec les festiciels, il y avait des ateliers de cerf-volant, de fusées à eau, de robotique. Moi, j'avais un atelier sur la fabrication de satellites. Voilà, j'ai aussi des ateliers sur l'alimentation dans l'espace avec des dégustations de plats lyophilisés, voilà, de ce que mange Sophie Adonneau en ce moment, puisqu'elle a été épaulée par une grande chef étoilée de Valence, Anne-Sophie Pic. Donc il y a tout un tas d'ateliers comme ça, intéressants pour faire découvrir le spatial et l'astronomie. Et en effet, je disais que moi j'ai toujours préféré montrer aux autres plutôt que de me retrouver tout seul dans mon coin à observer le ciel. Je l'ai fait de temps en temps pour bien sûr m'expérimenter, mais moi j'ai commencé en 1987, j'avais monté une exposition. En 1989 exactement, j'avais monté une exposition qui s'appelait le Carrefour de l'astronomie dans le Var, où j'avais regroupé des personnes en situation de handicap, à l'époque on appelait ça des personnes handicapées, mentaux, des handicapés mentaux, du grand public et des chercheurs, des scientifiques. Donc on avait monté dans tout un village, on avait 2500 personnes en un week-end, c'était dans le Var, du côté de Saint-Maximin, pour ceux qui connaissent. On avait un système solaire géant, on avait des fusées Véronique qui venaient du laboratoire d'astronomie spatiale de Marseille, on avait des caméras, une caméra qui était partie dans la navette spatiale, on avait tout un tas d'instruments. instrument comme ça, scientifique, à démontrer. Et on avait les jeunes handicapés qui faisaient visiter le système solaire au grand public, donc c'était toujours surprenant.
Cette éclipse, là, pour terminer, elle va se passer dans un climat un peu particulier sur Terre, avec la canicule qu'on connaît. C'est quoi le climat spatial ? J'ai vu qu'on parlait de climat spatial ou de météo spatial, d'ailleurs c'est pas tout à fait la même chose.
Alors la météo spatiale ou le space weather, c'est la météo spatiale, ça concerne surtout l'évolution des particules solaires, c'est-à-dire que le Soleil, il émet énormément d'énergie, ça on sait. Il émet les fameux vents solaires à partir de sa couronne. Donc il y a des scientifiques qui étudient la couronne solaire. Je pense par exemple à mes amis de l'Observatoire de Meudon qui travaillent sur le RPW de Solar Orbiter, le satellite Solar Orbiter. Tout ça pour étudier les vents solaires, puisque les vents solaires, lorsqu'ils arrivent à la hauteur des planètes, ils sont capturés par les champs magnétiques des planètes, c'est ce qui se passe pour la Terre, et sont directement orientés vers les pôles des planètes. On appelle ça les aurores polaires. Donc, on a l'habitude de parler d'aurores boréales puisqu'on est dans le nord, on est dans l'hémisphère nord. Mais on a les aurores australes. Quand vous allez dans le sud de l'Australie, c'est comme si vous étiez au Groenland, hein, mais dans l'autre sens. Et donc, on a les aurores boréales ou les aurores australes. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, on a eu des aurores boréales qui se sont étendues jusqu'à la France à cause de fortes activités solaires. Il se trouve que ça continue un petit peu, apparemment. On verra. Et il y avait un auteur de science-fiction, par exemple, qui s'appelait Arthur C. Clarke. Il avait imaginé dans un de ses bouquins Les Fontaines du Paradis, je crois. Il avait imaginé des aurores boréales qui allaient jusqu'à l'équateur parce que le soleil avait eu un comportement anormal et c'était presque apocalyptique. Et donc, même à l'équateur, on voyait des aurores qui se croisaient.
Vous pratiquez la vulgarisation scientifique, je crois, depuis 87. Quel regard vous portez sur l'évolution de la curiosité du public aujourd'hui ? Est-ce que les gens rêvent toujours autant d'espace qu'il y a 30, 50 ou 60 ans quand on a mis le premier pied sur la Lune ?
Oui, alors aujourd'hui, heureusement, la curiosité, elle est quand même portée par les médias. Moi, je me souviens, par exemple, en 1981, quand on avait eu la première navette spatiale, je photographiais l'écran de ma télé parce que ça passait au trésor avec Mourouzi. Et il n'y avait que ça pour pouvoir regarder le lancement d'une navette spatiale.
Conserver cette image, d'ailleurs, enfin, aussi, il y avait la presse, quoi.
La presse, le lendemain, quand j'ai acheté le journal, ils avaient pris en photo leur écran de télé aussi.
Hein.
C'était comme ça, on voyait les bords de l'écran. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les chaînes, les YouTube et compagnie, ça c'est génial pour ça parce que vous pouvez regarder le lancement de SpaceX, par exemple, en direct, même si c'est 2h du matin, vous vous connectez, vous regardez, c'est toujours en direct, c'est génial, après vous avez les replays, donc ça n'existait pas à l'époque. À l'inverse, par contre, tous ces mouvements de réseaux sociaux apportent une désorientation, j'allais dire, de la culture scientifique, puisque malheureusement, on a les théories complotistes, etc. Alors, comme disait un humoriste que j'avais vu récemment, avant, vous alliez à un anniversaire, le gars vous disait « t'as vu, la Terre est plate ?» On lui disait, reprends un peu de sangria, ça va aller mieux dans 5 minutes. Aujourd'hui, quelqu'un dit que la Terre est plate sur les réseaux sociaux, il y en a toujours deux ou trois qui vont dire, oui, t'as raison, et ils se montent en réseau. Mmh. Donc ça, c'est un peu le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pratiquement chaque fois que j'interviens dans un atelier, j'ai toujours quelqu'un qui me pose la question, mais est-ce que l'homme est vraiment allé sur la Lune ? Alors je dis, pourquoi tu me poses la question ? Pourquoi tu me poses cette question ? Eh bien, parce qu'en fait, pourquoi on n'y retourne plus ? Pourquoi on n'est plus capable d'y retourner ? Voilà, ça, c'est vraiment la question qui revient en permanence. Et aujourd'hui, on n'est plus capable de retourner sur la Lune parce qu'on est envahi par les normes. La guerre froide, tout ça, ça s'est arrêté. Il y a moins de challenges russes-américains, etc. Mais en tout cas, c'est parce qu'on a énormément de normes. Il y a un mois à peu près, j'étais chez Thales Alenia Space à Cannes et j'avais un des techniciens de chez Thales qui me montrait une petite pièce métallique en titanium, une petite pièce qui a la forme d'une équerre un peu, d'une équerre de bricolage pour accrocher des trucs. Et c'était une équerre pour pouvoir mettre des inserts sur les satellites. Et il me dit, vous voyez, cette pièce, on l'usine avec des fraiseuses. Et il a voulu en faire une à l'imprimante 3D. Ils ont des imprimantes 3D qui marchent sur du métal. Donc il a reproduit la même pièce en métal à l'impression 3D. On lui demandait 10 000 euros pour contrôler la pièce, pour voir si elle serait aux normes. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est le frein que représente aujourd'hui le retour sur la Lune, puisque la moindre vis, on va vous demander une somme astronomique pour la mettre aux normes. Alors qu'avant, avec des gens comme Von Braun ou Korolev, on ne parlait pas du tout de normes. C'était un peu l'étoffe des héros, et Yuri Gagarin, on lui a dit, tu vas monter là-haut, sinon tu te retrouves au pôle Nord. Donc il est monté sur un missile qui avait une chance sur deux d'exploser. Il s'est pris 9G au décollage, et ça a dérangé personne. Et ça a été le premier homme dans l'espace.
Merci François Haru, le rendez-vous c'est mercredi soir, rappelez-nous l'horaire pour voir cette éclipse.
Alors en gros, à partir de 19h20, vous vous préparez à observer l'éclipse jusqu'au coucher, jusqu'à la disparition du soleil, vous serez tranquille.
Merci François Haru, médiateur scientifique, mhd-production.fr pour tout connaître de vos ateliers, de vos cours en ligne, animation et autres émissions radio. Merci.
Merci.